Qu'est-ce que la philosophie? Il semble en première analyse qu'on puisse la définir par le fond ou par la forme, par son objet ou par sa démarche. Par l'objet, la philosophie traiterait de certains objets ou thèmes, à la différence d'autres sciences qui traitent d'autres objets. La psychologie étudie l'âme, la science politique la gestion de l'État, l'ornithologie les oiseaux. La philosophie, elle, traiterait, par exemple, de l'être en tant qu'être. Elle se confondrait alors avec la métaphysique, dont certains pensent de fait qu'elle est la seule philosophie véritable. Mais la philosophie s'est intéressée depuis ses origines à tout un éventail d'autres objets. Elle a voulu traiter de tout ce qui relève du vrai, du beau, du bien, pour reprendre la classification de Victor Cousin, donc réfléchir aux modalités et à la portée des savoirs humains, à l'art, à la morale, à la politique, et de là à la nature, au cosmos, au langage, à la logique, à la justice, à la vie sociale, au destin individuel et collectif de l'humanité, au temps, à la vie, à la mort. Mais le problème, c'est que ces thèmes sont si divers qu'on ne voit pas pourquoi la liste ne pourrait pas en être amendée, raccourcie d'ailleurs aussi bien qu'enrichie. En tout cas, elle n'est pas stable et elle ne fait pas l'objet d'un consensus, et je pense qu'elle ne peut donc être à elle seule la base d'une définition. Alors, deuxième manière d'envisager la philosophie, par la démarche. On définirait la philosophie non plus par ce dont elle traite, mais par la manière dont elle en traite. Serait philosophique une démarche critique au sens socratique du terme. On serait philosophe lorsqu'on serait capable de se mettre à distance de soi-même et de faire apparaître le cadre dans lequel on pensait jusque-là sans le savoir, de rendre visible, si l'on veut, ce cadre invisible. Ce qui demande d'ailleurs un certain courage, car si Thomas Kuhn a raison de dire que tout paradigme scientifique engendre son institution, c'est-à-dire le cadre social d'exercice de la recherche, celui-là seul qui est prêt à abandonner la sécurité de l'institution est dans la disposition d'esprit convenable pour remettre en cause le paradigme qui la fonde. Pour se mettre en quête de vérité nouvelle, il semble qu'il faille donc des déviants, prêts le cas échéant à devenir des parias. Tel serait toujours Volens Nolens, le philosophe. C'est d'ailleurs, peut-on dire, ce qui a coûté la vie à Socrate. Il posait systématiquement la question « qu'est-ce que t'y est-il » qui allait devenir la question philosophique par excellence. Or, on ne peut répondre à ce type de question sans prendre ses distances. Comme le dit Platon dans La République, le philosophe est celui qui a une vision globale des choses, mais il n'y a pas de vision globale sans éloignement, donc sans désolidarisation. La Terre n'apparaît comme ce qu'elle est, c'est-à-dire ronde, que lorsqu'on s'en est suffisamment éloigné, mais alors on est perdu dans l'espace, on ne vit plus sur Terre au milieu de la peine et de la sueur des hommes. La démarche critique est souvent féconde, mais poursuivie indéfiniment pour elle-même, elle tourne à l'absurde et conduit au nihilisme. Et c'est ça sa limite. Chez Socrate, le mouvement de recul réflexif n'était qu'une méthode pour se déprendre des opinions vaines et repartir d'un meilleur pas à la recherche de la vérité. Socrate ne réfléchissait sur sa propre réflexion que pour mieux réfléchir sur le réel. La démarche critique n'était pour lui qu'un détour, non un but en soi, et il n'aurait pas défini le philosophe par la seule ironie. D'autres n'ont pas eu sa sagesse et ont versé dans l'hypercritique, ce qui est, je crois, la démarche de l'école de philosophie qu'on appelle le cynisme, jusqu'à son avatar moderne qui est, selon moi, le déconstructionnisme. Alors, ni par l'objet ni par la méthode. Concluons que la philosophie ne peut se définir en tout cas ni par son objet seul, ni par sa méthode seule, et dès lors, mobilisant librement ces deux ressources, je me risquerai à la définition suivante. Je dirais que la philosophie est l'ensemble des recherches intellectuelles, premièrement, portant sur des problèmes jugés essentiels pour l'existence humaine. Deuxièmement, répondant à des questions de type qu'est-ce que, de façon théorique, avec une visée synoptique, en dépassant les circonstances singulières de temps et de lieu. Troisièmement, en remettant en cause pour cela, s'il le faut, les cadres de pensée existants et en instituant, en lieu et place de ceux-ci, de nouveaux systèmes d'interprétation du réel. Et enfin, quatrièmement, en faisant usage à cet égard d'une liberté ontologique essentielle et en assumant la pleine responsabilité historique de ses libres choix intellectuels. Reprenons ces différents points. Premier caractère, c'est une démarche intellectuelle portant sur des problèmes jugés essentiels pour l'existence humaine. La philosophie, comme je le disais tout à l'heure, traite de l'un, du vrai, du beau et du bien, donc des transcendentaux, tels qu'étudiés par la métaphysique. Et au-delà, elle s'intéresse à tout ce qui concerne la science, ses méthodes, sa portée, ses progrès, ses limites, le langage qui l'apporte et la logique qui en est l'instrument. Elle s'intéresse à l'esthétique et à l'art, à la morale, à la politique, à la justice, donc liste que j'ai commencé tout à l'heure, mais qui, comme on voit, n'est pas fixe et indéfiniment amendable. J'ajoute d'ailleurs qu'il est sans doute impossible de donner une liste complète et définitive de ces thèmes, même par grande catégorie, si l'on veut bien admettre que le philosophe est celui qui voit des problèmes dans ce que tout le monde estime aller de soi, et il est celui qui traite de questions qui n'ont jamais encore été posées. Dès lors, les thèmes que traitera la philosophie à chaque époque ne sont pas anticipables, par principe, à l'époque précédente. Mais alors, à nous en tenir aux quelques thèmes énumérés ci-dessus, observons déjà que les œuvres du canon traditionnel de la philosophie ne sont pas les seules à en parler de façon significative. Il faut adjoindre manifestement à ce canon des auteurs qui, même lorsqu'ils l'ont fait dans un autre style et n'ont pas proposé ce qui s'appelle un système philosophique, ont assurément pensé de façon approfondie, et même très approfondie, sur ces mêmes questions. Je songe évidemment à Montaigne, Pascal, Bell, Diderot, Kierkegaard, Nietzsche. Et il faudrait aussi intégrer au corpus intéressant à la philosophie des écrivains qui, en maintes pages, ont philosophé, comme Tacite, Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Proust, Martin Dugard ou Bernanos et mille autres. Je n'ai cité que les plus grands noms, mais il y en a bien d'autres. Et il faudrait ajouter de nombreuses grandes œuvres des 2 ou 3 derniers siècles qui sont aujourd'hui classées dans le fourre-tout des sciences sociales et de l'histoire des civilisations, qu'il faudrait peut-être requalifier comme philosophiques, ou du moins comme intéressant en premier chef la philosophie. Par exemple, Turgot, Adam Smith, Destutt de Tracy, Benjamin Constant, Tenise, Karl Menger, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max Weber, les économistes classiques et néoclassiques, j'en ai déjà cité quelques-uns, mais dont d'ailleurs certains furent et se dirent philosophes. Et jusque, et y compris, les œuvres qui n'ont pas encore de classement clair, même au sein des sciences sociales, comme l'histoire de la folie ou de la sexualité de Michel Foucault, les œuvres traitant des modalités de l'émergence de la civilisation, je pense à Popper ou à René Girard, celles traitant des relations systémiques entre information politique, droit et économie, je pense à Menger encore une fois et à Friedrich August Hayek, et aussi du sens discernable de l'histoire. Alors là, il y a plein de grands historiens pensants, hein, Jacob Burckhardt, Marc Bloch, Fernand Braudel, Norman Cohn, Jean Delumeau, et y compris d'ailleurs l'histoire longue, celle de l'espèce ou des espèces humaines. Je songe aux travaux de Jean Béchelaire ou de Yuval Noah Harari. Et puis encore, des problématiques touchant à l'intelligence artificielle, au transhumanisme, etc. Alors je ne donne que ces quelques exemples, mais c'est pour montrer que si on définit la philosophie comme l'ensemble des recherches traitant de problèmes essentiels pour l'existence humaine, eh bien il est artificiel d'en réduire le corpus aux seuls auteurs qui sont officiellement reconnus par l'école et qui s'expriment dans son langage. Alors deuxième trait qu'aurait, selon moi, la philosophie, c'est que c'est une recherche intellectuelle répondant à des questions de type qu'est-ce que, de façon théorique, avec une visée synoptique et en dépassant les circonstances singulières de temps et de lieu, et chacune de ces précisions compte. Alors d'abord, poser des questions de type qu'est-ce que, et tenter d'y répondre, donne à la philosophie d'abord un lieu de naissance, la Grèce, où ce type de questions a été posé pour la première fois, avec le rôle du verbe être. Et puis, ça lui donne aussi un lieu d'exercice, à savoir la civilisation ayant culturellement hérité des Grecs, c'est-à-dire la civilisation occidentale. Rien ne dit cependant que ces frontières géoculturelles soient imperméables, surtout à partir des temps modernes où les cultures occidentales et non occidentales ont largement communiqué. Il faut que le philosophe réponde à ces questions de façon théorique, c'est-à-dire sur un registre conceptuel, avec un haut degré de cohérence interne, permettant de donner un sens univoque au concept employé, procédé indispensable pour que l'intelligence voie clair et aille au fond des choses. Je n'ai pas besoin de rappeler les préconisations de Descartes à ce sujet dans les règles pour la direction de l'esprit. Ce caractère formel démarque la philosophie d'autres types de discours où s'exprime légitimement l'esprit humain. L'esprit humain n'a pas un seul organe d'expression. Je pense à la poésie, à la littérature, à l'éloquence, à la parénèse. Car s'il arrive qu'un philosophe commente des poèmes, éventuellement d'ailleurs les siens, comme Saint-Jean de la Croix ou Nietzsche, c'est dans le commentaire qu'il fait œuvre de philosophe et non pas dans le poème. De même, selon nous, les aphorismes, si nombreux dans les œuvres de Nietzsche, peuvent suggérer une philosophie, mais ne suffisent pas à la constituer. Puisqu'étant par définition allusifs, non explicites, ils obligent à un constat d'inachèvement et même d'échec le philosophe qui veut cerner des essences. Le philosophe doit encore tenter de répondre à ces questions avec une visée synoptique. Alors, cela ne veut pas nécessairement dire synthétique, au sens de Hegel, qui entend conserver dans la synthèse tout ce que celle-ci dépasse. Car dans le champ de vision du philosophe, il peut y avoir des points qu'il entend laisser justement à leur indétermination ou à leur inconnaissabilité. Il peut même entrer dans son propos de dire cette inconnaissabilité même, excluant ainsi toute prétention de synthèse. Pascal, par exemple, distingue l'ordre de la charité de ceux de la chair et de l'esprit et montre que ceux-ci ne disent rien de celui-là. Or, il énonce fort nettement cela même dans un texte admirable de clarté et de distinction qu'on peut dire cartésienne. Donc c'est un texte philosophique, mais un texte philosophique qui met le point, qui attire l'attention sur un point aveugle. De même, Kant, avec sa distinction des phénomènes et des noumènes, il marque avec une parfaite netteté la frontière entre le connaissable et l'inconnaissable, mais ce qui fait de lui un philosophe, c'est bien cette netteté avec laquelle il définit ce qui est inconnaissable. De même encore, Emmanuel Lévinas, qui conteste l'intention grecque, entre guillemets, de ne juger du particulier que du point de vue de la totalité, ce que nous disions tout à l'heure, et il conteste cette intention parce que selon lui, cette démarche prive l'esprit humain de l'accès à l'infini. Elle rend les Grecs aveugles à l'épiphanie de l'infini, qu'est, selon Lévinas, la responsabilité pour autrui, ce que les chrétiens appellent charité. Mais Lévinas énonce cette thèse même dans le cadre d'une théorie rationnelle et non lacunaire de l'éthique. Il dit donc en langue grecque la vérité publique. Et il retrouve ce que fut la démarche constante des pères de l'Église. Donc, synoptique signifie ceci, par conséquent, lorsqu'un philosophe énonce certaines thèses au sujet du réel ou d'une région du réel, il doit tenir compte, il entend tenir compte, même s'il n'en parle pas explicitement, de toutes les connaissances que ses contemporains possèdent à ce sujet. En effet, l'omission d'une seule d'entre elles, volontaire ou involontaire, inconnue de lui ou négligée par lui, mais qui serait connue du public, ôterait toute valeur à son propos. Et pour avoir cette visée synoptique, il faut qu'il ait une érudition universelle. Et de fait, les grands philosophes de la tradition ont tous eu une culture non pas seulement très vaste, mais universelle, recherchant une forme d'exhaustivité. Ce fut assurément le cas d'Aristote, on le cite souvent à ce sujet, mais aussi de Boèce, d'Isidore de Séville, de Saint Thomas, de Descartes, de Leibniz et même de Kant. Alors par comparaison, la philosophie académique française actuelle semble être fort incurieuse des sciences de notre temps, des sciences sociales, économiques, politiques, géopolitiques, des sciences de la nature, de la cosmologie, de l'histoire des civilisations, sciences si abondantes et si fructueuses aujourd'hui. Et c'est aussi, je le note au passage, c'est un point de vue un peu différent, la limite de l'histoire de la philosophie comme spécialité académique. Connaître à fond la doctrine des philosophes du passé, c'est très bien, mais cela enferme l'historien de la philosophie dans l'univers même des philosophes dont il étudie la pensée, laquelle est tributaire des savoirs de leur époque. Si ces philosophes vivaient de nos jours, leur curiosité les porterait vers les savoirs de notre temps. Du coup, ne faut-il pas, pour être digne d'eux et pour être leur vrai disciple, oser penser autrement qu'ils n'ont pensé? Que diraient Platon ou Aristote s'ils avaient connaissance de la physique, de la chimie, de la biologie, de la cosmologie actuelle, de la manière dont nous comprenons aujourd'hui la vie et son évolution, de ce qu'est pour nous l'ancienneté de l'histoire et de la préhistoire humaine, remontant certes bien au-delà de l'Égypte qui, on le sait, était pour Platon un horizon historique indépassable. Un esprit qui philosophe aujourd'hui ne saurait donc s'attacher de manière exclusive à des pensées d'anciens philosophes, que ceux-ci réviseraient peut-être s'ils revenaient au monde. L'histoire de la philosophie, en conclusion, est indispensable aux philosophes, mais elle ne se confond pas avec la philosophie même. Le philosophe, enfin, entend que la doctrine qu'il propose dépasse les circonstances singulières de temps et de lieu, c'est-à-dire qu'il va s'efforcer de réfléchir du point de vue de l'éternité, subspecie aeternitatis, comme le demande Spinoza. Aristote avait déjà dit dans un texte célèbre qu'étant donné que c'est par le nous partie divine de notre âme que nous voyons les belles formes de la nature, eh bien, nous vivons en immortel quand nous pratiquons le savoir théorique. C'est ainsi que vit justement celui qui a accédé au troisième genre de connaissances dont parle Spinoza. Mais c'est évidemment un paradoxe. Comment prétendre accéder à l'intemporel quand on est dans le temps? Dès lors que les idées, les connaissances et le langage même dont on use sont sujets à changement historique, comment croire que les réalités qu'on cerne à l'aide de ces idées et de ce langage pourraient être transhistoriques? Le fait même qu'il y ait une histoire de la philosophie ne démentit-il pas cette prétention? L'élément suivant de notre définition, le troisième élément, nous permettra peut-être de poser autrement le problème.